Mon nom est Thomas Pavel et je suis né à Bucarest, en Roumanie, il y a longtemps. Et je vis aux États-Unis, j'enseigne à l'université de Chicago. Vous m'entendez? Bon. Permettez-moi de faire quelques. De vous présenter les raisons pour lesquelles, dans ma jeunesse et plus tard, j'ai travaillé sur la littérature de la manière dont je l'ai fait. Je dois vous dire que lorsque j'étais jeune, ce qui m'attirait le plus, ce qui me semblait le plus urgent, c'était d'introduire, comme je le croyais à l'époque, un peu de rigueur dans notre discipline. Et non seulement de la rigueur, mais aussi, si possible, un peu de liberté. C'était une période où ces deux idéaux n'étaient pas nécessairement respectés. Parce que d'une part, on pouvait dire n'importe quoi. Et d'autre part, ce n'importe quoi était très, très, très bien contrôlé et contraint. Surtout dans mon pays où il y avait une version du marxisme-léninisme assez dogmatique et je dois dire même assez dangereuse dans ce sens que on pouvait d'un coup découvrir que vous avez commis des erreurs tellement, tellement dangereuses et fatales que vous mettiez en danger directement l'avenir radieux de l'humanité. Pour ne pas mettre en danger l'avenir de l'humanité, il y avait toujours la possibilité de faire de la stylistique ou de la poétique, c'est-à-dire au lieu de parler de choses vraiment importantes et dire, disons, de prendre des risques sérieux, il y avait la possibilité de parler de choses peu importantes, mais exactes, comme les métaphores, les métonymies, la versification. Et par prudence, mais aussi par amour de la rigueur et pour ne pas être obligé de dire des choses auxquelles, au fond, je ne croyais pas, j'ai commencé par une étude de la métaphore et j'ai travaillé dans le domaine de la stylistique sans savoir, sans vraiment savoir que ce type de recherche auquel je me suis adonné au début des années 60 allait bientôt devenir très très importante et que sous le nom du structuralisme, ce type de recherche allait conquérir beaucoup de départements de littérature dans plusieurs pays. Dans mon esprit, quand j'étais jeune, j'étais plutôt contraint à faire ces choses-là parce que, d'abord, comme je viens de vous le dire, on pouvait dire des choses rigoureuses. Sur la métaphore, on pouvait dire des choses qui étaient précises, qui avaient presque un aspect, disons, incontestable. Et d'autre part, on était un peu plus libre. Mais en même temps, j'étais toujours conscient du fait que dans ce domaine un peu plus rigoureux qui était la stylistique, la poétique, et par la suite, on a étendu ce domaine à l'étude de l'intrigue narrative, à l'étude de la structure de tout un texte, que ces recherches étaient, à mon avis, subordonnées. C'était un domaine subordonné. C'était pas l'essentiel. C'était quelque chose de très important, tout comme lorsqu'on construit un beau bâtiment, il y a l'architecte, évidemment, mais il y a aussi la personne qui s'occupe de la plomberie. Vous voyez, il y a peu de bâtiments comme le Centre Pompidou où la plomberie est plus importante que, enfin, fait partie intégrante de l'architecture. D'habitude, on la cache. Et je me disais que ces études de poétique et de stylistique étaient prudentes, subordonnées et bien cachées. Je n'ai jamais prévu que ces études formelles allaient devenir tellement importantes et même prétendre à un moment donné évacuer tout le reste. Deuxièmement, j'avais l'impression que toutes les choses nouvelles qu'on disait, comme toutes choses nouvelles toujours, a un caractère expérimental, un caractère provisoire et qu'on doit proposer des hypothèses, tâtonner un peu, sans et oser, puisque c'était tellement nouveau, certains de ces aspects étaient tellement nouveaux, sans proposer immédiatement une métaphysique définitive ou sans proclamer immédiatement des certitudes centrales. Et effectivement, pour montrer ceci, j'ai étudié dans les années 70 l'organisation des intrigues des pièces de théâtre. Et j'ai eu comme objet les tragédies de Corneille et plus tard certaines tragédies d'un auteur anglais de la Renaissance, Marlowe. J'ai travaillé aussi un peu sur Shakespeare, je vous donnerai tout de suite un exemple. Et je pensais que c'était des recherches et des propositions. J'étais très frappé et disons... comme je venais d'un pays de l'Est avec un certain... Je trouvais certaines choses vraiment un peu ridicules. La manière dont on a promu ces études structurales au niveau d'une métaphysique de l'esprit humain, c'était, à mon avis, absolument pas le cas. Et je dois dire que dans mes travaux, j'ai toujours, dès le début, cherché le sens et non pas la forme. Même au niveau de l'organisation de l'action, on nous a beaucoup raconté des histoires sur l'importance de la forme, que c'est la forme qui détermine, qui est déterminante dans la littérature. Je n'ai jamais vraiment cru à ceci, parce que comme je suis toujours resté un consommateur naïf d'œuvres littéraires, je suis resté toujours... Je dirais, non, comme tout le monde, j'ai jamais pris au sérieux mon rôle de spécialiste en dehors du moment où je faisais de la recherche. Je savais très très bien en m'examinant moi-même que quand je vais au cinéma, quand je vais au théâtre, ce qui m'intéresse, c'est l'action, c'est ce qui se passe. Tout d'abord, moi je veux voir d'abord si ce que je voulais savoir, si c'était si le Cid allait épouser Chimène ou non. Et même de nos jours, c'est toujours cela qui m'intéresse. J'avoue ceci. Bon, il y a ensuite d'autres choses très importantes. Il y a d'autres choses très, très, très importantes. Mais tout d'abord, c'est le fait qu'il s'agit d'une action humaine. Les œuvres littéraires qui m'intéressaient, les romans, les pièces de théâtre, les films, parlaient de... et ce que je voulais étudier, c'était l'enchaînement des actions humaines et selon leur motivation. Il ne s'agissait absolument pas, comme on nous racontait à l'époque, d'un jeu au fond arbitraire. Et c'était pas simplement l'enchaînement qui m'intéressait, mais aussi les maximes qui régissent les actions. Et je vous donnerai un exemple ici, une tragédie que vous connaissez tous, le roi Lear de Shakespeare, qui au fond, si on regarde un peu ce qui se passe là, vous voyez, ce que nous voyons, ce n'est pas tellement un jeu de forme, mais c'est une lutte à mort entre deux groupes ennemis. Il y a un système d'alliance, deux groupes qui s'opposent, et tout ceci est organisé par deux intrigues parallèles dont la thématique, au fond, est le rapport entre les parents et les enfants. Et vous vous souvenez, il y a un des systèmes des alliances, on comprend à la fin qu'il est formé un de ces groupes, il est formé du roi, Lear, Kent, Edgar et Cordelia, Edgar le fils de Gloucester, et l'autre système est formé de Goneril, Regan et Edmund. Et ce qui est très mystérieux et très beau dans cette tragédie, c'est que peu à peu, on découvre ces maximes qui parfois sont des maximes secrètes, des maximes dont, que les personnages suivent sans s'en rendre tout à fait compte. Par exemple, on se rend compte que le roi Lear, sa folie, vient du fait qu'il ne connaît pas ses vrais alliés. Dans ce système d'alliance, c'est une lutte à mort, il ne comprend pas qui est de son côté, il ne comprend pas que Cordelia et que Kent sont ses vrais appuis. Et Edgar, le fils de Gloucester, ne sait pas qui sont ses vrais ennemis. Il ne sait pas. Il ne se rend pas compte que son frère Edmond et son pire, son demi-frère Edmond et son pire ennemi. Et plus généralement, comme dans toute la littérature populaire et dans toute la littérature archaïque, jusqu'à très récemment, c'est que ce qu'on appelle comme, disons, les bons, ceux parmi les personnages qui réussissent à gagner notre sympathie, auxquels on adhère, ils sont ignorants, ils sont innocents, ils ne savent pas. Et que les méchants savent, ceux qui savent sont. Et que, vous vous souvenez, à la fin de la tragédie, Edgar réussit dans un combat singulier à vaincre Edmond, qui meurt. Mais dans ce combat, Edgar avance la visière basse. Pour qu'il ne soit pas vu, pour qu'il puisse vaincre, il ne peut pas, il ne donne pas son nom. Il est seulement lorsqu'il est invisible aux méchants, lorsqu'il est inconnaissable, qu'il peut vaincre. Et j'étais très frappé à l'époque par la ressemblance de la structure de l'organisation du roi Lear et de celle de un cycle qui ici n'a pas eu beaucoup de succès, mais qui en Amérique du Nord a eu beaucoup, beaucoup de succès, à savoir Star Wars. Star Wars, c'est exactement comme c'est exactement ce combat entre deux groupes, et au fond, ce sont les faibles qui sont, les bons sont faibles, et ce sont eux qui l'emportent à la fin. Je ne vais pas entrer ici dans ces détails, c'est tout simplement pour vous dire que c'était l'organisation de l'action qui m'intéressait, parce qu'elle organisait des actions humaines, motivées, et disons, non seulement motivées, mais légitimées par certaines maximes. Un autre exemple, un exemple important de maxime qui a une régularité, qui régit le théâtre de Corneille. Dans la plupart des pièces de Corneille, à part la dernière, sur Ena, il y a comme une sorte de maxime implicite que tout le monde accepte, à savoir que si une princesse choisit un de ses prétendants, elle choisit celui qui est couronné. Elle choisit une couronne. On n'épouse pas. Si on a le choix entre quelqu'un qui est tout simplement un prince et quelqu'un qui est un roi, c'est tout à fait normal de choisir un roi. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans cette situation de nos jours, mais disons, à l'époque, ça avait une certaine signification. Et ça rend d'autant plus forte la surprise de Britannicus. Parce que chez Racine, cette maxime est abolie. Dans Britannicus, Junie préfère celui qui n'est pas l'empereur. Et c'est de là que vient la surprise de cette pièce. Mais enfin, ces maximes qui m'intéressaient étaient cependant isolées. Je n'ai jamais réussi dans cette partie dans cette période de mon travail de mettre ensemble ces maximes autrement que comme des contraintes sur l'action. Et peu à peu, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même étudier le sens global d'une œuvre. Le sens global, et non pas le sens global de l'œuvre elle-même, mais de passer d'abord par l'univers que l'œuvre décrit. Les œuvres, me semblait à l'époque, décrivaient des univers qui ne sont pas tout à fait semblables à l'univers où nous vivons, et qui ont leur propre logique, et c'est à cette période que j'ai commencé à réfléchir à la question des univers, des mondes de la fiction. Et c'était en quelque sorte aussi comme une protestation personnelle et qui n'était pas explicite, mais qui était quand même, c'était là son sens, contre l'idée que tout est texte. Certains parmi vous peut-être se rappellent qu'il y a 30-40 ans, on n'avait même pas le droit de dire œuvre, il fallait dire texte. Si on disait œuvre mauvais, texte très bien. Un texte dont on savoure les jeux linguistiques, non, je voulais dire, c'est peut-être c'est vrai, parce qu'il y a des gens aussi qui savourent les jeux linguistiques, qui sont là, on ne peut pas nier cette vérité. Mais en même temps, ce qui intéresse la plupart des spectateurs et des lecteurs, et ce qui intéresse surtout les créateurs eux-mêmes, c'est la présentation de l'univers. Hein. Et c'est à cette période-là que j'ai cru devoir prendre position aussi au niveau théorique, et c'est là que j'ai écrit un livre, c'était le bon moment d'ailleurs, qui s'appelait « Le mirage linguistique » et qui voulait soutenir que, au fond, tout ce culte de la langue, toute cette idée que ce qui est déterminant est, dans la littérature et la langue était un mirage. Mais une fois qu'on a décrit le sens de l'univers, on reste quand même, surtout si on enseigne comme je le faisais, on reste devant le grand mystère, je dirais, le grand mystère de l'histoire. Il faut faire face à l'histoire. J'enseigne aux États-Unis, comme en France, l'enseignement de la littérature est organisé de manière historique. On demande des spécialistes du 17e siècle, du 18e siècle. Il suffisait pas de dire les œuvres décrivent des actions humaines régies par des maximes et qui forment des univers qu'il faut décrire, mais il fallait aussi réfléchir à la signification des époques. J'étais amené à me poser cette question. Est-ce que les époques ont une réalité aussi forte que celle qu'on leur prête? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de diviser l'enseignement de la littérature en époque? Bon, si on prend cette division comme une division pragmatique, oui, pourquoi pas, évidemment, mais je reviendrai tout de suite sur ce sujet lorsque nous discuterons la question de l'histoire, mais c'est là que j'ai travaillé sur le XVIIe siècle, et j'avais des préjugés, d'abord un préjugé d'amour, puisque c'est le XVIIe siècle français qui est la période de la littérature que j'ai toujours aimé le plus, qui m'a toujours parlé, disons, très, 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 très directement, mais aussi j'avais un préjugé, je voulais découvrir que le XVIIe siècle n'est pas unitaire, évidemment, parce que je voulais le faire, je l'ai trouvé, et vous verrez tout de suite dans quel sens. Et à la fin, je me suis dit, bon, j'ai fait tout ceci, donc j'ai essayé de voir un petit peu les différents aspects des œuvres littéraires. La seule chose que je n'avais pas faite, c'était l'histoire d'un genre. Je voulais voir comment fonctionne l'histoire d'un genre, et je ne l'aurais jamais fait si, en arrivant, il y a 17 ans, à l'université de Princeton, le directeur du département ne m'avait pas demandé « qu'est-ce que vous voulez enseigner ?» Vous êtes professeur chez nous, ils sont très très, très polis, c'est extrêmement courtois. « Vous voulez enseigner quoi ?» Moi, j'ai dit « bon, comme j'ai travaillé sur les univers de la fiction, sur les structures narratives, je pourrais faire un cours de théorie littéraire, narratologie, fictionnalité. » Ah, il dit « oui, mais vous savez, nous avons besoin d'un cours de l'histoire du... sur l'histoire du roman. » Moi, je n'avais jamais enseigné ceci. J'ai expliqué à plusieurs reprises que j'aimerais faire autre chose. Alors, il m'a dit, oh, oui, c'est très, très, très bien comme ça. Vous allez enseigner le cours d'histoire du roman. Que j'ai dû faire ceci puisque mon chef avait trouvé que c'était la conclusion naturelle de notre conversation. Et je lui suis vraiment reconnaissant parce que au début, je me suis dit voilà une tâche extrêmement difficile, mais c'est grâce à lui, c'est grâce au fait que je me suis mis à cette tâche que j'ai découvert des choses absolument remarquables et tout à fait insoupçonnées sur l'histoire de ce genre et sur l'histoire de la littérature en général. Et voilà le dernier volet de tout ce que j'ai fait, c'est j'étais de nouveau presque forcé de le faire parce qu'il y a eu cette possibilité d'enseigner ici et donc pour laquelle je suis vraiment très reconnaissant. J'exprimerai cette reconnaissance dans la leçon inaugurale, mais pour boucler, disons, tout ce trajet, je me suis proposé quand même de réfléchir un petit peu à la question de l'écoute des œuvres littéraires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller un peu au-delà de l'étude. J'ai étudié toute ma vie, je voudrais maintenant parler de mon expérience personnel. Comme un collègue à moi, lorsque je lui ai dit que le sujet de mon cours sera comment écouter la littérature, il m'a tout de suite posé, oui, mais disons, ah, c'est très intéressant, très intéressant. Dans quelle période, dans quelles conditions sociales, dans quelle... Moi, j'ai dit, voilà, comment écouter la littérature, comment je le faisais, moi, à 15 ans, assis sur un canapé avec un roman, et ma mère me disait, mais Thomas, ne lis plus, tu lis toute la journée, sors jouer avec tes copains. C'est ça ce que je voulais faire. C'est un peu, disons, l'attitude de celui qui n'étudie pas. Et dans la leçon inaugurale, je ferai la distinction entre étudier et écouter. Disons que étudier signifie nécessairement, je dirais, se placer un peu à l'extérieur des œuvres et les considérer, à juste titre, comme les objets d'un examen cognitif, alors que nos rapports avec la littérature ne sont pas simplement d'ordre cognitif, mais ont surtout une coloration existentielle et morale. Je ferai là la distinction entre connaître, il n'y a pas du tout de sentiment de hiérarchie de valeur, parce que les deux types d'attitudes sont tout aussi importantes, on ne pourrait pas survivre sans elles. Il y a d'une part connaître, mais d'autre part il y a participer. Il y a participer, et participer non pas dans le sens platonicien et mystique, mais tout simplement dans le sens quotidien. Vous voyez, on peut étudier une personne, vous avez un fils, mettons, j'ai un fils, et deux filles d'ailleurs, mais je voulais comprendre mon fils et je réfléchissais à sa personnalité, à ses besoins, etc., à ce qu'il fallait. Mais aussi je me promenais avec lui le soir. Il y a deux choses différentes qui sont étudier une personne et se promener avec une personne. Et quand on se promène avec quelqu'un, on l'écoute. Et ce que j'essaierai de faire pendant ce cours, c'est de voir ce qui se passe lorsque nous nous promenons avec la littérature, avec une œuvre, et nous l'écoutons. Je demanderai d'abord, le jeudi 6 avril, pourquoi j'écoute ces histoires, pourquoi je lis, pourquoi je veux aussi, j'allais au cinéma, parce que maintenant on n'a plus le temps, mais enfin, je regardais les séries télévisées, et je vais, parce qu'au fond, vous vous rendez compte, je ne sais pas si je parle pour tout le monde, mais pour certains d'entre nous, vivre ne suffit pas, vivre notre vie ne suffit pas. Nous avons besoin d'un peu plus de... nous avons besoin d'accès à d'autres existences. C'est pour cela qu'il y a le commérage. La littérature est une forme de noble. Nous voulons savoir toutes sortes de choses qui ne sont pas à nous, qui ne nous regardent pas tout à fait, mais qui nous regardent indirectement. J'ai accès dans la littérature à une autre existence. Hélas, ou heureusement, par procuration. Et je soulignerai ici trois aspects de cette écoute, ou plutôt jeudi 6 avril. D'abord, le caractère personnel de l'écoute. L'écoute est une question de reconnaissance et d'accueil. Lorsque je me promène avec quelqu'un, c'est une forme d'accueillir cette personne. Deuxièmement, c'est le caractère fiduciaire. Quand quelqu'un se promène avec moi, cette personne me fait confiance. Et l'œuvre aussi nous fait confiance. Elle m'est confiée. Une œuvre est remise à mes soins. Et ceci implique une certaine manière de se comporter envers les œuvres. Et enfin, je réfléchirai un tout petit peu vers la fin de cette leçon inaugurale au jeu entre la familiarité et la nouveauté. Je viens de découvrir récemment dans un très beau livre de Daniel Arras, Histoire de peinture, que cette notion de familiarité a été développée par Paul Venn dans un écrit que je ne connais pas, mais c'est une notion extrêmement importante parce que sans l'idée de familiarité, on ne peut pas vraiment saisir la nature de la nouveauté littéraire. Et pour préparé ces remarques que je ferai dans 2 semaines, je voudrais examiner aujourd'hui quelques choix philosophiques qu'elle présuppose. Ce n'est pas tous les choix philosophiques du monde, évidemment. Je n'ai absolument pas l'intention ni la possibilité d'être exhaustif ici, mais je voudrais parler du type de choix que j'ai été moi-même obligé de faire. Et ces choix ne sont pas strictement limités à l'étude de la littérature, mais ce sont des choix qu'il faut opérer toujours dans les recherches sur l'esprit humain et qui, dans ma carrière, dans ma vie, m'ont paru assez importants. Et ces cas, je parlerai donc de 4 types de choix. Le premier est de savoir s'il faut insister dans l'étude de la littérature, s'il faut insister sur les concepts que nous sommes en train de forger ou sur les œuvres individuelles qui sont devant nous, qui s'offrent à nous, qui se remettent à nos soins. Donc, c'est l'opposition entre concept et individualité. Et le concept, surtout lorsqu'il est pris dans le sens hegélien comme principe de développement d'une réalité spirituelle, une réalité spirituelle ou mentale qui connaît une véritable téléologie interne, est un outil extrêmement puissant. Vous voyez, par exemple, on peut dire, comme l'a dit Schlegel, par exemple, à un moment donné, la littérature allemande se développe en devenant parfaitement allemande, c'est-à-dire en se débarrassant des influences étrangères. C'est une possibilité. Ou alors, plus tard, chez Hugo Friedrich, en littérature, ou chez Clement Greenberg, en histoire de l'art, on a dit que la poésie ou l'art moderne deviennent de plus en plus modernes. Le concept ici, c'est moderne. Elles deviennent de plus en plus modernes en se concentrant sur les moyens artistiques, plutôt que sur la teneur du message. L'art devient moderne en devenant de plus en plus formel. Le mouvement de la suprématie de la forme n'est rien d'autre que la réalisation du concept de modernité poétique. Vous voyez, voilà une forme très très forte de concept. Et je donnerai 2 exemples de concepts historiques forts, ou de familles de concepts historiques forts. L'un est le Zeitgeist, l'esprit d'une époque, et l'autre est l'épistémé, de nouveau une cohérence intellectuelle d'une époque. Le Zeitgeist est une notion qui a son origine dans la philosophie de Hegel et dans le développement du hegelianisme sous différentes formes de réflexion sur la culture à la fin du 19e siècle. Et c'est de là que nous viennent ce qu'on appelle parfois les étiquettes. C'est de là que nous viennent les étiquettes. Le classique, baroque, rococo, romantique viennent de là. L'histoire littéraire des périodes. Les périodes auraient une très forte unité spirituelle, et cette unité spirituelle s'exprime dans un style commun. L'épistémé est différent du Zeitgeist, parce que l'épistémé est différent parce que le Zeitgeist a des rapports intimes avec le développement à longue durée sur la longue durée de l'esprit humain. Tandis que les épistémés sont des cohérences arbitraires. Il y a des périodes qui ont une certaine cohérence, on ne sait pas pourquoi, et d'un coup, ça change. C'est un concept qui a son origine dans les travaux dans les ouvrages tardifs de Heidegger, pour qui l'être, comme ça, l'être nous envoie des époques sans qu'on le demande. L'ère de la représentation, par exemple, c'est Michel Foucault qui a développé ceci en France, l'ère de la représentation, par exemple, succéderait arbitrairement à celle de l'analogie, c'est ce qu'il nous raconte. Je vous donnerai un exemple littéraire que je trouve très amusant, qui vient d'un disciple de Foucault aux États-Unis, Steven Greenblatt, un Shakespearien important. Vous connaissez tous La Nuit des Rois de Shakespeare. Et comme toujours dans Shakespeare, comme toujours dans la littérature de la Renaissance jusqu'au XVIIe siècle, pour qu'une jeune fille puisse partir, il faut qu'elle se déguise en homme et pour qu'elle puisse affronter les difficultés d'un voyage. Donc, là, chez Shakespeare, il y a beaucoup de ces déguisements, il y a beaucoup de ces jeunes filles qui se déguisent en homme. L'objet de l'analyse de Steven Greenblatt est La Nuit des Rois, mais on pourrait tout aussi bien parler de Comme il vous plaira, n'est-ce pas? Parce que Rosalind, pour pouvoir voyager, se déguise en homme. Et, bon, disons que... ce jeu sur la sexualité dans cette période de formation existe partout dans l'astrée, dans le quatrième volume de l'astrée, c'est la dante se déguise en jeune fille. Voilà, c'est un exemple symétriquement contraire. Et Steven Greenblatt veut montrer qu'il est, il y a comme une sorte d'épistémé, comme une sorte d'esprit de l'époque, et il montre l'intérêt pour les hermaphrodites au début du XVIIe siècle. Il regarde ce qui se passe chez Shakespeare comme une sorte d'indétermination sexuelle qui permet à l'énergie sexuelle de se manifester, selon Greenblatt. Ces traités sur les hermaphrodites publiés au nord de la France sont malheureusement publiés un peu après La Nuit des Rois, mais ça n'a aucune importance. Shakespeare n'aurait jamais pu les connaître, ça n'a pas d'importance. C'est l'esprit de l'époque. L'épistémé opère à l'insu des individus. Elle est arbitraire, obligatoire, inconsciente. Les difficultés de ces approches, auxquelles j'ai toujours été très sensible, parce qu'on a toujours essayé de nous enseigner les Zeitgeist, c'est que ces notions sont très sensibles à l'ère de famille des œuvres. Les œuvres semblent être proches les unes des autres, mais le Zeitgeist gomme les différences. Classiques, romantiques, réalistes sont des gouffres sans fond où on précipite les œuvres. Voilà, je vous lirai maintenant les débuts de Rodogune et de Britannicus pour voir deux visages complètement différents du classicisme. Il est vrai qu'il y a la même maîtrise des moyens, le même calcul attentif des effets, et pourtant, quelle différence dans le ton. Enfin, ce jour pompeux, cet heureux jour, nous lui, qui d'un trouble si long doit dissiper la nuit, ce grand jour où l'humain, étouffant la vengeance, entre le part et nous remet l'intelligence, affranchit sa princesse, et nous fait, pour jamais, du motif de la guerre, un lien de la paix. Ce grand jour est venu, mon frère, où notre reine, cessant de plus tenir la couronne incertaine, doit rompre aux yeux de tous son silence obstiné. De deux princes gémeaux, nous déclarer l'aîné. Et l'avantage seul de moment de naissance, dont elle a jusqu'ici caché la connaissance, mettant au plus heureux le sceptre dans la main, va faire l'un sujet et l'autre souverain. Bon, vous voyez, il s'agit donc, on attend la déclaration d'une situation nouvelle, exactement comme dans Britannicus, où Albine et Agrippine sont ensemble sur la scène, et Albine dit « Quoi ?» Tandis que Néron s'abandonne au sommeil, « Faut-il que vous veniez attendre son réveil ?» Qu'elle rentre dans le palais sans suite et sans escorte. La mère de César veille seule à sa porte. « Madame, retournez dans votre appartement. » Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment. Je veux l'attendre ici. Les chagrins qu'il me cause m'occuperont assez tout le temps qu'il repose. Tout ce que j'ai prédit n'est que trop assuré. Contre Britannicus, Néron s'est déclaré. Alors, vous voyez, c'est exactement la même procédure. Il y a une déclaration. Néron s'est déclaré contre Britannicus. Cléopâtre déclarera qui de Séleucus ou d'Antiochus est le véritable héritier de la couronne, et pourtant quelle différence dans le ton. Hein. Le fortissimo des trompettes contre ce piano des instruments à cordes, la déclamation explicite contre la suggestion de l'implicite, la fameuse sourdine classique, qui est une notion inventée par Leo Spitzer. Cette fameuse sourdine classique s'applique absolument à Racine, mais non pas à Corneille. Et j'ai cherché, comme j'étais fasciné par cette idée de baroque dont on fait tellement usage, j'ai cherché si on peut trouver quelque chose de palpable qui puisse être appelé baroque. Okay. J'ai étudié les tragédies de Marlowe, un petit nombre de tragédies de ce grand écrivain anglais qui est mort jeune, contemporain de Shakespeare. Et ce qu'on pourrait appeler l'excès baroque, cet excès baroque, il y a quelque chose d'excessif dans le baroque, apparaît, il est là, mais il est chaque fois ailleurs. Dans Tamburlaine, c'est une superbe tragédie de la nuit infinie sur 10 actes, et la 10 actes, c'est ce conquérant qui fait des conquêtes de plus en plus spectaculaire et qui montre une cruauté de plus en plus énorme, c'est la déclamation et la folie des gestes. Dans le Juif de Malte, c'est la complication excessive de l'action. Dans Édouard II, c'est l'étrangeté du conflit. Dire baroque, m'a semblé, c'est dispenser d'aller plus loin. On peut dire baroque, mais c'est tout simplement une première impression. Il faut voir ce qui est derrière ceci. Quant à l'épistémé, j'ai jamais cherché à étudier les épistémés parce qu'elles m'ont semblé avoir une capacité explicative minimale puisqu'elles sont obligatoires, inconscientes et arbitraires, donc elles autorisent pratiquement n'importe quelle distorsion des données pour qu'on ramène tout à la cohérence postulée d'avance. Alors, je ferai ici des contre-propositions pour remplacer le Zeitgeist et en général ce genre de concepts qui sont, à mon avis, trop vastes. Tout d'abord, je crois qu'il faut faire attention, il faut savoir écouter, être sensible à la différence interne des époques, qui sont toutes parcourues par des courants divergents et conflictuels. Et il suffit de regarder notre époque, puisque nous sommes nous aussi. Nous vivons dans une époque, nous ne vivons pas à la fin de l'histoire comme le croient certains. Dans notre époque, il y a tellement de courants conflictuels qui se battent entre eux, et je ne vois absolument pas pourquoi au XVIIe siècle, la situation aurait été différente. Et, au XVIIe siècle, par exemple, il y a un certain type d'univers fictionnel que j'appellerais l'univers romain. L'univers romain, Britannicus et Rodogune font partie de cet univers les deux, où la plus grande vertu est la magnanimité. C'est la magnanimité qui est la plus grande vertu. Et dans Corneille, elle est toujours présente. Elle est toujours présente. Dans Racine, elle est plutôt absente, mais son absence est considérée comme une immense tragédie. C'est de là que vient la tragédie dans Britannicus. Mais aussi, chez Corneille, on remarque une évolution de la magnanimité. Elle existe au début, elle est presque le seul motif qui fait agir les personnages, mais à partir d'un certain moment, son absence se montre, pour ainsi dire, son absence, qui est la chose la plus méprisable, est la cause de la catastrophe. Comme, par exemple, dans Polyeucte, si vous vous souvenez, c'est Félix qui est l'homme du soupçon, qui ne croit pas que les autres puissent être magnanimes. La même chose dans la mort de Pompée, Ptolémée et le prince, il est lui aussi dévoré par le soupçon. Néron dans Britannicus, Roxane dans Bajazet. Par contre, dans l'univers des romans, qu'on ne lit plus, mais que les gens à l'époque lisaient beaucoup, ils sont très très longs et laborieux pour nous, la panoplie des valeurs, si vous voulez, est très différente. Je mettrais même en doute non seulement l'unité des époques, parce que je vois que les époques sont très divergentes en leur sein. Il y a des idéaux littéraires ou des projets littéraires conflictuels au sein de chaque période. J'y reviendrai tout à l'heure lorsqu'on parlera de romans. Non seulement le fait que les époques sont partagées par des conflits internes, mais aussi je mettrai un peu en doute l'importance des divisions en époque. Par le fait que nous enseignons le 16e, 17e, 18e siècle, nous perdons de vue certaines choses. Et nous perdons de vue le fait qu'il existe des continuités très fortes parfois à l'intérieur d'un genre. La tragédie en France me semble changer très peu du début du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe. C'est une chose dont tout le monde est conscient. Les romantiques se sont révoltés contre ceci. Entre le théâtre de Méret et celui de Voltaire, qu'on ne lit plus, mais qui a du mérite, je dirais. Entre le théâtre de Méret et celui de Voltaire, la différence est une différence de perfectionnement à l'intérieur d'une même méthode. Mais entre la prose d'Urfé et celle de Madame de Lafayette, et puis de Marivaux, et puis de Rousseau, et puis de Laclos, les différences sont énormes. Il s'agit d'univers complètement. Est-ce qu'on pourrait tout simplement parler, comme on n'a pas manqué de le faire, de la plasticité indéfinie ou infinie du roman? Ça, c'est les Bakhtine, les gens de ce genre qui parlent de plasticité. Non, il n'y a pas de plasticité infinie. Il y a tout simplement des continuités et des changements à travers les époques. Je ne sais pas si on peut donc parier, si on gagne à parier sur le primat des périodes. Deuxième réflexion ici à propos de cette deuxième réflexion pour mettre en doute l'importance de la division en périodes, en époques. Il y a des ressemblances frappantes et une communauté sentie et vécue entre des périodes éloignées et qui ont des régimes politiques et sociaux très différents. Vous savez qu'on a parlé des grands siècles. Voltaire parlait des grands siècles. Il y a du vrai dans cela. Entre le siècle d'Auguste et le siècle de Louis XIV, il y a des choses qui sont communes. Et effectivement, au XVIIe siècle, les partisans des anciens Il s'inspirait véritablement des écrivains latins et grecs. Il vivait ailleurs. Il vivait ailleurs. Il se retrouvait, si j'ose dire, sous le même toit que les anciens. De même, le classicisme allemand, un siècle plus tard. Alors, qu'y a-t-il de commun entre Athènes et la France du XVIIe siècle ou l'Allemagne de la fin du XVIIIe? Je ne sais pas. Et je ne me pose même pas cette... Donc, nous rejoignons, après cette critique de l'approche conceptuelle, je voudrais plaider en faveur d'une étude de la littérature qui met l'accent sur l'individualité des acteurs, c'est-à-dire des auteurs, et de leurs actes, de leurs œuvres. Lorsqu'on dit individualité, on le pose au concept, tout le monde pense tout de suite à Kierkegaard lorsqu'il se pose à Hegel, mais je ne veux pas recourir ici au pathos existentiel de Kierkegaard. Il suffit de penser à la conception de l'histoire de Leopold Ranke, fondateur en Allemagne du moins de l'historiographie moderne, qui défend la thèse suivante. La primauté des faits contre celle de la théorie. On regarde d'abord les faits avant de théoriser. En histoire, pas en physique. Deux, l'unicité des événements historiques et des périodes. Comme dit Ranke de manière très très belle, il dit « chaque période se présente seule devant Dieu ». Dieu jugera chaque période selon ce qu'elle a accompli. Autrement dit, on ne peut pas déclarer comme déclaraient les dirigeants allemands dans les années 30, notre période se sacrifie pour le bien de la nation. Mais les fruits seront cueillis seulement à l'avenir. Ça va directement contre l'idée du sacrifice de la génération actuelle sur l'autel de l'avenir. Trois, dans l'histoire, c'est l'histoire politique qui a le rôle déterminant. C'est l'action humaine qui a le rôle déterminant. C'est excellent d'étudier la longue durée, c'est excellent d'étudier l'économie, mais il ne faut pas oublier que ce qui détermine, c'est l'agir. Et d'ici découle le postulat de l'action, la quatrième thèse, c'est que l'histoire n'est jamais décidée d'avance. Elle est la somme des résultats d'actions humaines orientées vers des buts précis. Et finalement, Ranke prenait soin d'introduire un critère de moralité dans l'histoire. Il y a une moralité dans l'histoire, mais on juge, cette moralité est une moralité facile à juger. Il nous est facile, disait-il, et je suis absolument d'accord avec lui, il nous est facile de juger les actions et les périodes d'après des principes moraux qu'on peut saisir à n'importe quel moment. C'est, par exemple, la tyrannie est mauvaise à n'importe quel moment et sous n'importe quel prétexte, la cruauté, l'arbitraire, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Donc, alors, voilà, j'essaierai de m'inspirer un peu du point de vue de Ranke pour la réflexion sur la littérature, une réflexion qui n'est pas tout à fait réductible à l'histoire littéraire, mais quand même les deux vont ensemble. C'est d'abord donner la primauté aux œuvres et non pas à la théorie, quelle qu'elle soit. J'ai moi-même enseigné des cours de théorie de la littérature. Il y a beaucoup de théories de la littérature, elles sont toutes très intéressantes, mais quand même, si on ne part pas des œuvres, on perd l'essentiel. Et je vous donne ici deux exemples d'approches qui mettent l'accent sur les œuvres. C'est d'abord l'approche thématique qui continue de me paraître comme une des plus importantes, et c'est une des plus réelles, puisque nous jugeons les œuvres, nous les goûtons et nous en parlons selon leur thème. Quand vous racontez à quelqu'un que vous êtes allé voir le monde de Narnia, je ne sais pas si quelqu'un ici l'a vu, mais en tout cas, moi, je l'ai vu. Et si on dit, c'est quoi le monde de Narnia? Vous n'allez pas dire c'est un film... vous n'allez pas décrire des aspects formels ou des aspects mythiques dans ce film. Vous allez parler de la thématique. Vous allez parler de... c'est un film sur des enfants qui découvrent un monde merveilleux au fond d'une armoire. D'une armoire qui les conduit dans un monde merveilleux. Tout à l'heure, lorsque je parlais du roi Lear, je disais que le roi Lear est une pièce où on nous présente deux conflits qui, les deux, s'intéressent au rapport entre les générations, entre les parents et les enfants. Pourquoi faut-il voir le King Lear? Parce que c'est sur les parents et les enfants. La manière dont un père peut ne pas comprendre ses enfants. Bon. Ou alors, si vous voulez aller plus loin, vous voulez dire, c'est que dans le roi Lear, on nous montre que nous sommes les jouets des dieux. Mais là, on va parler de cela dans, la semaine prochaine. Donc, c'est la thématique qui nous sollicite d'abord la reconnaissance et l'accueil des les œuvres. Je viens de lire un très beau livre sur la conscience malheureuse dans la littérature moderne de Philippe Chardin. C'est le genre d'études thématiques qui vous font envie de lire une œuvre parce qu'elle parle des choses qui vous intéressent. Ou alors, on peut procéder par isoler les œuvres. Et là aussi, je veux mentionner très rapidement la possibilité de voir l'œuvre isolée comme unité organique dans laquelle le tout converge vers le même effet, soit, puisque tout est possible, de voir l'œuvre comme le lieu de l'hétérogénéité, là où il y a toujours le conflits, les éléments disparates, les codes divergents, les mouvements qui se subvertissent mutuellement. L'unité organique a été le grand slogan d'un courant extrêmement important aux États-Unis, les New Critics, les nouveaux critiques des années 40-50 autour de l'université Yale. L'hétérogénéité a été une notion et même, je dirais, une valeur extrêmement importante dans la critique littéraire française de la fin des années 60. Vous avez une œuvre qui défend l'hétérogénéité de toutes les œuvres, à savoir SZ de Roland Barthes. Alors, tout ceci est très beau, mais de nouveau, il faut regarder l'œuvre elle-même, parce que un des plus talentueux, des plus subtils parmi les New Critics, les nouveaux critiques, qui est Clint Brook, a écrit une étude célèbre et profonde et belle sur Macbeth de Shakespeare, dans laquelle il part d'une métaphore du bébé nu. Le bébé nu. Très, très, très beau. Il montre comment cette métaphore, détermine les sonorités poétiques et les champs métaphoriques de Macbeth. Et, si je me rappelle bien, est dû en opposition avec le vieillard habillé. Très, très beau. Mais ce n'est pas tout, parce que quand on va voir Macbeth, ce qui nous intéresse, c'est quand même... l'action. C'est quand on va voir Macbeth, ce qui nous intéresse, c'est la folie de l'ambition, le crime, la tyrannie, c'est tout à fait autre chose. Il s'allumant complètement. Il applique, Clint Brook applique d'une manière extrêmement subtile, extrêmement riche, une méthode qui est admirable lorsqu'on étudie un sonnet de Shakespeare, mais qui, lorsqu'on étudie une tragédie, elle ne nous donne que des résultats qui portent sur un détail. Ou alors, Barthes a absolument raison de faire attention aux mouvements divergents, aux codes qui se subvertissent les uns les autres, mais, sauf que ça marcherait, je me dis, très très bien si l'objet de l'étude était une œuvre surréaliste, mais non pas avec Sarrazine de Balzac, qui est l'objet de Sarrazine de Balzac, est une histoire construite pour avoir un effet très direct. C'est une intrigue bien, bien construite. C'est une œuvre de jeunesse, mais elle est très bien faite. Il n'y a pas véritablement, disons, l'hétérogénéité que Barthes trouve dans SZ. C'est lui qui l'introduit, là. C'est lui qui l'introduit. Voilà. Et je me dis qu'il faut donc faire attention avec ces méthodes. Il faut donner la primauté aux œuvres, mais il faut aussi les écouter et faire attention à l'œuvre et ne pas venir arriver devant l'œuvre avec des idées préconçues. Deuxièmement, il faut accepter quand même. Il faut accepter l'unicité des œuvres. C'est très difficile pour moi de dire ceci parce que j'ai toujours cherché le contraire, mais il faut accepter que l'unicité des œuvres joue un rôle et que chacune se trouve par elle-même devant le lecteur. De la même manière, lorsque je me promène avec quelqu'un, c'est peut-être, même si j'avais 12 fils, si je me promène avec un d'eux, je me promène avec ce fils-là. Et quand je suis devant une œuvre, je suis avec cette œuvre-là. Et il faut faire un usage extrêmement sagace de ces désignations stéréotypes. Il ne suffit pas de dire Balzac, ah bon, c'est réaliste. Parce que il y a le côté romantique de Balzac, il y a le côté visionnaire de Balzac, il y a Curtius qui a écrit un livre sublime sur Balzac, le meilleur d'ailleurs, avec celui de Béguin aussi. Et troisièmement, les auteurs ont des intentions artistiques. L'auteur existe, on nous a annoncé qu'il était mort. Il y a des auteurs qui sont morts, mais avant de mourir, ils avaient tous des intentions artistiques. Et ils expriment ces intentions dans leurs œuvres. Ceci est extrêmement important. Et l'histoire de la littérature, toutes ces œuvres qui sont là, dans les rayons des bibliothèques que personne ne lit, et certaines sont quand même dans la bibliographie du cours, donc on les lit. Cette histoire est le résultat de ces intentions, de ces œuvres qui se battent les unes avec les autres, puis que ces intentions se combattent mutuellement ou s'entraident. Et les époques ont chacune leur diversité, les traditions passent d'une époque à l'autre, il y a toute une dynamique là, et les auteurs sont des acteurs. J'avais ici un exemple qui n'est pas strictement individuel, mais qui montre la manière dont on peut voir des transformations étonnantes et pourtant plausibles d'une période à l'autre, qui est le résultat d'un désir d'imitation, je dirais, conscient. Vous savez que Brunetière, qui avait beaucoup, beaucoup d'idées originales qui ont été malheureusement un peu oubliées, pensez que la prédication, le sermon, qui était un genre littéraire jusqu'à la fin, un genre de belles lettres, je dois dire, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, se transforme en disparaissant, ou plutôt en disparaissant, il prête son pathos à la poésie lyrique romantique. Et voilà, je vous lirai un fragment de Bossuet. Ici, je n'ai pas eu les sermons, mais ce sont les méditations sur l'Évangile qui sont quand même dans le style rhétorique des sermons. Et ensuite, je vous lirai un fragment de Jocelyn de Lamartine. Et vous verrez, la sonorité est la même. Et c'est très difficile de croire que ce transfert, disons, cette récupération, si vous voulez, n'a pas été intentionnelle. Alors, j'ai ouvert presque au hasard, enfin, j'ai cherché quand même quelques notions semblables entre les deux fragments. Cherchez le royaume de Dieu, cherchez donc le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. C'est le thème du sermon de Bossuet, ou plutôt du chapitre de Bossuet. Et il dit ceci, opérez votre salut, il cite saint Paul, il dit opérez votre salut avec crainte et tremblement, comme dit saint Paul, c'est la seule chose qui mérite vos inquiétudes. Et toutefois, je l'oserais dire, il faut encore bannir l'agitation et l'inquiétude de cette recherche. Car, comme ajoute le même saint Paul, Dieu opère en vous le vouloir et le faire, selon sa bonne volonté. Tremblez donc en opérant votre salut. Et toutefois, ne vous défiez pas trop de vos forces, car Dieu travaille avec vous. C'est lui-même qui fait avec vous tout ce que vous faites. Espérez donc en son secours. Abandonnez-vous entre ses bras. Il est bon. Il aura pitié de votre faiblesse. Il opérera en vous par sa bonne volonté ce qu'il faut aussi que vous opériez. Opérez donc votre salut. Travaillez-y avec soin et même avec tremblement. Ainsi de suite. Écoutez maintenant Jocelyn de Lamartine, deuxième époque. Oui, l'esprit du... je m'arrête. Lamartine essaie de présenter comme une sorte de vision hegélienne de l'histoire. Mais vous verrez dans quelle terminologie rhétorique, ou sous quelle forme rhétorique il le fait. Il présente cet hegélianisme du mouvement perpétuel. Oui, l'esprit du Seigneur travaille incessamment par l'esprit des mortels, son aveugle instrument. Il a donné pour vie à la pensée humaine ce flux et ce reflux qui la porte et l'entraîne. S'il cessait de tourner dans ce cercle divin, s'il s'arrêtait un jour, ce jour serait sa fin. Mais pour lui, sur la route à ses pas accordée, une idée est toujours en avant d'une idée. Il s'élance, il l'atteint au terme d'un sentier. Il crée à son image un monde tout entier. Puis à peine entre-t-il dans l'œuvre commencée qu'il demande à courir vers une autre pensée. La réalise et passe, et d'essor en essor gagne notre horizon pour le franchir encore. C'est très beau. Évidemment, c'est l'idée opposée parce que vous avez d'une part un Dieu qui vous protège de loin, tandis que vous avez d'autre part un Dieu qui vous pousse tout le temps. Mais le langage, la rhétorique est très, très semblable. C'est difficile de croire que Lamartine n'a pas fréquenté la prédication classique, celle de Bourdaloue, de Bossuet, et ainsi de suite. Et quatrième point, et là aussi je serais d'accord Ranke. Nous jugeons les œuvres littéraires d'après des critères somme toute assez simples. Assez simples. La capacité de capter l'attention, la force, la richesse. De termes vagues. Dans un très beau livre sur l'esthétique, Gérard Genette se moque des esthéticiens américains, de Beardsley par exemple, parce que Beardsley utilise des termes de ce genre pour décrire le succès d'une œuvre littéraire. Il dit, bon, ou d'une œuvre artistique en général, il faut avoir la force, la richesse. Etc. Et Genette dit, bon, ça ne veut rien dire, force, richesse, c'est vague. Et je dis, oui, c'est vague. Il a raison, c'est vague. Mais et alors, est-ce qu'il y a des domaines dans notre vie où il suffit d'être vague? Et je vous rappelle la promenade. Après la promenade, on rentre et on se dit, ah, c'était agréable. Et ça suffit. Ça suffit. C'est très vague, mais ça suffit. Mais on va revenir sur le jugement à propos de... Du deuxième champ problématique, c'était le champ problématique du concept versus l'individuel. On ne peut pas accéder au concept, surtout en littérature, sans concentrer notre attention sur l'individuel. Deuxièmement, sur le réalisme et le relativisme. J'ai fait face moi-même à ce type de choix. Et de nouveau, chez Genette, qui défend le relativisme du goût, donc du jugement esthétique. Ou alors, chez j'ai pas participé, mais j'ai assisté au débat aux États-Unis dans les 20 dernières années sur le relativisme de l'interprétation. On peut interpréter une œuvre littéraire comme on veut, toutes les interprétations se valent, il n'y a pas d'interprétation plus valide que l'autre. Un auteur américain, A.D. Hirsch, a écrit un livre qui s'appelle « La validité de l'interprétation ». Et je vous avoue que dans nos milieux universitaires américains, le fait d'avoir osé parler de validité, ça lui a valu des ennuis infinis. Enfin, comment, il aurait dû peut-être dire, comme Swift, un modest proposal, une proposition extrêmement humble pour peut-être avoir quelque chose qui n'est pas tout à fait relatif, mais dire validité, c'est grave. Hein. Donc, même, il y avait un courant, il y a une vingtaine d'années, je ne sais pas s'il existe encore, mais c'était très à la mode et très chic pour des critiques littéraires universitaires de publier des articles ou des ouvrages qui avaient dans le titre le terme « réécrire » ou « réécriture ». Moi, Thomas, mettons, je réécris Rodogune. Et au lieu de... Je suis en quelque sorte aussi intelligent que Corneille, mais en réalité, je suis beaucoup plus intelligent que lui, puisque je vis dans une période qui est beaucoup plus intelligente et plus avancée que la sienne, et je réécris son œuvre, et mon article de critique littéraire, loin d'être ennuyeux, comme il le sera probablement, il est extrêmement intéressant et infiniment plus valable que l'œuvre de Corneille. Vous voyez donc, le lecteur réécrit l'œuvre et le texte à sa main. Le texte n'est qu'un pré-texte, et on a mis beaucoup l'accent sur les idiosyncrasies des individus et des communautés qui interprètent. Voilà deux types de relativisme du goût. Et du goût et de l'interprétation, pour le relativisme et du goût, je vous donne un argument tout de suite. Voilà, le goût est relatif. Un argument qui me semble à moi fort, puisqu'il vient de ma propre expérience. Comme vous tous, et comme tout le monde, j'ai toujours cru que Pradon est une nullité. Vous savez, Pradon, le rival de Racine, celui qui a osé écrire une Phèdre, rivalisé avec Racine. Le Phèdre de Racine est une des plus belles pièces qui existent, et... Boileau s'est moqué de ce Pradon. Personne n'a lu Phèdre et Hippolyte de Pradon, mais puisque l'érudition fait véritablement des progrès, on a publié dans la collection de la Pléiade ces trois volumes du théâtre du XVIIe siècle. Parmi les pièces qu'on a redécouvertes, on a publié comme ça Pradon pour qu'on puisse se moquer de lui. Et j'ai lu Pradon, comme beaucoup de XVIIe-istes d'ailleurs, et j'ai trouvé que c'était très bon. C'était très, très... C'est pas aussi fort que Racine, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de comparaison. Mais voilà, c'est une bonne pièce. Elle est bien construite, et s'il fallait la traduire dans une autre langue, puisqu'en français, nous avons la versification de Racine, qui est le plus grand poète, évidemment, de sa période, tandis que la versification de Prudhon, elle est assez plate. Hein. J'ouvre une parenthèse, si vous permettez, pour vous dire que j'ai assisté à Chicago au théâtre du... nous avons un théâtre sur le campus, un théâtre qui, ce qu'on appelle en Amérique un repertory theater, c'est un théâtre qui joue des pièces classiques en général. Et on a fait une Phèdre de Racine à laquelle j'ai assisté. J'ai appris beaucoup, j'ai beaucoup souffert et j'ai beaucoup appris, parce qu'on apprend toujours par la souffrance. Et j'ai appris ceci, j'ai appris que l'action est très très bien construite. Et j'ai souffert parce que la pièce était abrégée, traduite en prose, en slang américain, dans une sorte d'argot américain, en prose, et, dans un américain parlé. Okay. Au moment où le rideau s'ouvre, vous voyez un Phèdre presque nu, mais de dos, heureusement. De dos, donc la pudeur n'était pas tout à fait offensée, qui est poussé sur un lit à roulettes, puisque c'est un hôpital, parce qu'elle est souffrante. Et elle se met debout, et de l'autre côté de la scène, il y a une femme une, assez grande, habillée d'une robe de soie verte, qui boit du Coca-Cola, mode 1920, mais élégance. Qui boit du Coca-Cola avec un autre garçon, une table comme ça, c'est un homme. C'est un homme. Et j'en passe. Donc c'était alarme, c'était presque une parodie. Ça commençait presque comme une parodie. Moi j'étais choqué, puisque j'aime pas ce genre de... J'aime pas me moquer des choses que j'aime. Et pourtant, il faut dire ceci. Ça continuait comme ça, Et pourtant, malgré ceci, la pièce a eu son effet. Elle est très, très forte, elle est très bien construite. On a complètement liquidé l'élégance de la versification. La sourdine classique dont on parlait tout à l'heure. Le côté cérémonieux. On a annulé tout ceci. N'est resté que l'action. Elle tient. C'était extrêmement fort. Hein. Mais donc, je dis ceci tout simplement pour défendre un peu Pradon, qui a sûrement entendu parler dans le petit Paris, Paris qui était très petit à l'époque, encore plus petit qu'aujourd'hui, il a sûrement entendu parler des projets de Racine, et il a eu une idée que je trouve géniale, à savoir que chez lui, vous vous souvenez, il y a Eunone qui est la confidente de Phèdre, et il y a Aricie, qui est celle que, au fond, Hippolyte aime en réalité. Et chez Pradon, c'est le même personnage. La confidente de Phèdre est celle que Hippolyte aime. Ce qui fait que, du point de vue dramatique, c'est très, très fort. Et ce n'est que, bon, il n'a pas l'élégance, il n'a pas le génie de Racine, ni la beauté classique, ni l'harmonie, mais c'est une pièce qui, jouée, disons, traduite en argot américain, avec des coupures, aurait un succès égal à celui de... Donc voilà que, pour dire qu'on peut dire, voilà, le goût est relatif, vous avez devant vous quelqu'un qui ne méprise pas, à la différence de Boileau, quelqu'un qui ne méprise pas, toute proportion gardée, à Pradon. D'autre part, il y a le réalisme du goût et des interprétations. Et là, je dirais, nous sommes tous des réalistes, nous le sommes. Parce que, bien que ce réalisme ait peu de défenseurs, le relativisme du goût ressemble, me semble, beaucoup au scepticisme des philosophes. Le scepticisme des philosophes est purement théorique. On peut être sceptique en philosophie, mais dans la vie, on continue quand même de réagir comme si on ne croyait pas à notre propre... scepticisme. Pour l'œuvre d'art, nous pratiquons tous un certain réalisme du goût. Nous avons tous le sentiment inévitable que ce que j'aime, que ce que nous aimons est bon, qu'il y a quelque chose là. Je connais beaucoup de gens, je connais quelqu'un, j'ai un ami qui aime Boulez. Ouais, ça me semble, disons, le goût le plus étrange pour moi. Qui aime Mozart, mais lui aime Boulez. Et lui, il trouve quelque chose là, il m'explique ce qu'il y a là. Il est réaliste. Il est réaliste dans son attitude. Et là, il y a deux raisons, deux versions. L'une, celle du réalisme modéré, qui a été proposée ici en France par le regretté Rainer Röchlitz, dans un beau livre qui s'appelle « L'art au banc d'essai ». C'est le réalisme du débat. C'est le réalisme du débat. Si on, les œuvres sont le sujet d'une conversation privée et publique permanente. Je peux dire, j'ai adoré le monde de Narnia, j'adore Star Wars, ou le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment bien. Et d'autres peuvent dire, quand même, tout ce genre de film est nul, il condamne tous les gens. Mais non, moi je dis, oui. Il y a un débat. Par le fait qu'il y a un débat, c'est-à-dire à l'horizon quelque part, il y a l'espoir de trouver. D'arriver à une. À, peut-être pas à une conclusion, mais au moins le débat a un certain sens. Ou alors, tout récemment, j'ai lu tout récemment un livre publié cette année, qui s'appelle le réalisme esthétique. Parce que nous vivons dans une période où, après des décennies de relativisme, il y a des jeunes qui se disent, bon, quand même, il faut défendre aussi le réalisme. C'est le réalisme esthétique de Roger Puivet, qui dit ceci, les propriétés esthétiques existent dans l'œuvre. Si on dit d'une œuvre qu'elle est gracieuse, c'est qu'il y a dans l'œuvre quelque chose qui la rend gracieuse. Si on dit qu'elle est mélancolique, il est l'élégance, puisqu'on parlait de Racine, la sourdine classique, une certaine perfection dans la construction, elles sont là dans Britannicus, et pour les percevoir, il suffit de regarder. Et vous allez me dire, il ne suffit pas de regarder. Oui, il ne suffit pas de regarder, parce que ce type d'approche a toujours besoin d'ajouter que il faut avoir acquis les bonnes habitudes. Il faut avoir acquis les bonnes habitudes esthétiques. Et là, nous sommes très, 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 très près immédiatement. On s'approche d'une théorie des bonnes habitudes. Notre vie est structurée en grande partie par les bonnes habitudes. Si elles sont vraiment bonnes, on les appelle vertus. Et Roger Puivet doit faire appel à cette notion un peu paradoxale, mais belle, hein, de vertu esthétique. Quelqu'un est vertueux du point de vue esthétique lorsque cette personne a acquis la bonne habitude de trouver chez Racine l'élégance, la sourdine classique, la construction. Enfin, ceci s'apprend. C'est vrai que le goût se forme. Les relativistes vont tout de suite dire comment. Il y a peut-être tout simplement du lavage de cerveau. Je ne veux pas entrer ici dans ce débat, mais j'ai tout simplement dit qu'il y a ici un choix extrêmement important. Vous voulez rester jusqu'à quelle heure pour vous demander? Parce que, étant donné qu'on a annulé la leçon de la semaine dernière à cause des... on a arrêté cela à cause du mouvement social, je vais continuer un peu. Et, aux États-Unis, les gens ont le droit de poser des questions à n'importe quel moment du cours. Donc, s'il y a, puisque maintenant, vous n'êtes plus... au début, évidemment, il y avait un peu de... d'incertitude, vous ne connaissiez pas le professeur, maintenant vous m'avez vu pendant 1h19. Si quelque chose vous choque, ou vous voulez réagir, vous faites ceci et je vous donne la parole. Entre-temps, je continue. Donc, on a parlé de concept versus individu. Ensuite de l'individuel et du conceptuel, du réalisme et du relativisme, un troisième type de choix très 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 important, un choix où on a fait, je crois, beaucoup d'erreurs, c'est le choix entre l'attitude réductionniste et celle qui défend l'indépendance des niveaux. Il y a évidemment plusieurs formes de réductionnisme. On peut toujours dire, bon, l'esprit humain n'est en dernière analyse que le cerveau. C'est le réductionnisme ontologique ou un réductionnisme causal. On pourrait dire, les propriétés du cerveau expliquent, rendent compte, épuisent les actes de l'esprit. Dans l'enseignement de la littérature, dans ma vie, j'ai eu affaire à un type très dangereux de réductionnisme, le réductionnisme linguistique. On disait, l'œuvre littéraire n'est rien d'autre que la langue. L'œuvre linguistique se réduit à des effets de langue. Il suffit, c'est un texte, on dit, l'œuvre n'est rien qu'un texte, c'est-à-dire un morceau dénoncé. Et il suffit d'étudier les propriétés linguistiques et puis les propriétés littéraires et les expliquer. Il suffit de regarder la structure linguistique pour comprendre l'œuvre. Aussi, il y a eu des manifestations, on a vu le réductionnisme moral ou intentionnel, disons de manière plus générale, un réductionnisme intentionnel. Nos intentions sont illusoires. Ça, c'est bien connu, il y a toutes sortes de systèmes philosophiques qui nous enseignent que nos intentions sont illusoires, d'autres les défendent. Mais en littérature, on a eu ce combat a été mené, il a commencé en Amérique avec Beardsley et Winsett, qui dans les années 40, à la fin des années 40, début des années 50, ont écrit un article qui avait une influence énorme, qui s'appelait « L'illusion intentionnelle ». C'est une illusion. Le fait que l'artiste a des intentions, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'œuvre. L'œuvre est un objet, et ça peut être traité comme objet. Et plus tard, en France, on a traduit ceci d'une manière un peu plus élégante, disons, en parlant de la mort de l'auteur. L'auteur était peut-être là, mais il ne l'est plus. Je pense que je vais dire tout simplement, je vais faire deux remarques ici, très rapidement. Peut-être qu'en dernière analyse, l'esprit n'est que le cerveau. Et qu'en dernière analyse, nous ne sommes que des corps, disons ça. Il faut vraiment des connaissances surnaturelles pour dire le contraire. Mais nous ne sommes pas intéressés toujours, et nous ne sommes pas intéressés lorsque nous étudions la littérature, par ce qui se passe en dernière analyse. Il ne faut pas laisser la dernière analyse influencer la première analyse, et la deuxième analyse, et la troisième analyse. Mon fils est un corps. Peut-être en dernière analyse. Mais pour moi, disons, je ne pense pas à lui en termes de corps. Je pense à lui en termes, par exemple, quand il était petit, en termes de quelqu'un qui doit faire ses devoirs pour demain. Et c'était peut-être en première et deuxième et analyse momentanée, mais c'était important, c'était ce qui comptait. Je n'avais pas besoin d'aller en dernière analyse et entrer en conversation avec tel ou tel neurone sur le cerveau. Dans le cerveau de mon fils pour qu'il fasse ses devoirs. Il suffit que. Mais quand même, il est déjà 19h, 7h du soir, et tu n'as pas encore fini tes devoirs. Et avec les œuvres littéraires, nous sommes exactement dans le même rapport. Peut-être qu'en dernière analyse, tout est linguistique ou tout est, je ne sais pas. Ça ne m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en première, en deuxième, en troisième analyse. L'œuvre est là pour que je l'accueille, pour que je la goûte, pour que je la comprenne, ainsi de suite. Il faut donc savoir quel est le niveau de l'analyse. Et la tragédie du structuralisme français a été de croire qu'on peut aller directement en dernière analyse. C'est pas possible. C'est une immense erreur. On peut multiplier les exemples, mais on n'a pas ici le temps. Deuxièmement, pour le réductionnisme intentionnel ou moral, il y a ce que j'appellerais la règle de Charles Taylor. Charles Taylor est un philosophe canadien qui a écrit beaucoup d'ouvrages importants, dont une réfutation célèbre du behaviorisme et une autre de l'utilitarisme. Et sa règle est celle-ci, et qu'il est impossible d'étudier l'action humaine et tout ce que s'y rattache, donc les œuvres littéraires, sans tenir compte de l'intention de l'acteur ou ici de l'auteur. Ce n'est peut-être pas la seule chose. C'est peut-être pas, il ne faut pas tout réduire à l'intention de l'auteur. Il ne faut pas nécessairement faire comme faisait une prof à moi quand j'étais étudiant. Dans le cours de littérature comparée, on était arrivé au cours sur Goethe. On n'a jamais parlé des œuvres littéraires de Goethe. Elle nous a parlé des amours de Goethe. On a su en détail de qui Goethe était amoureux. C'est un peu exagéré de dire que l'œuvre se réduit à la vie, mais on ne peut pas éviter de réfléchir à la notion d'intention. Nous vivons, le monde dans lequel nous vivons est intentionnel de part en part. Et enfin, J'approche de la fin de ce que j'avais à proposer aujourd'hui. On est obligé, lorsqu'on étudie la littérature, de réfléchir aux propriétés de l'histoire. On est obligé à réfléchir à l'histoire et à réfléchir de nouveau à quelque chose, si l'histoire est déterministe ou non, si elle est téléologique ou non, et si elle est irréversible ou non. Et ça a l'air abstrait, mais c'est extrêmement important et c'est extrêmement concret. Il y a beaucoup de décisions, non seulement en histoire de la littérature ou dans la manière dont nous goûtons les œuvres littéraires ou dont nous les écoutons, mais aussi dans notre existence. Nous avons eu en histoire littéraire, nous avons eu droit au déterminisme. Ça a été exprimé d'une manière superbe par Hippolyte Taine, qui parlait de la race, du milieu et du moment. C'est la meilleure des formules qui expriment le déterminisme. Il y a eu le déterminisme biographique, je vous ai fait allusion, j'ai fait allusion aux amoureux de Goethe, où de nos jours on nous parle de la vie et des ambitions de Racine le caméléon, etc. On nous a parlé dans des termes beaucoup plus vastes de superstructure idéologique déterminée par la structure économique. Vous savez que Racine, peut-être on a oublié déjà cela, mais quand j'étais jeune, on nous expliquait que Racine était un représentant de la noblesse de robe. Ou alors que de la culture déterminée par les rapports politiques, Racine et l'absolutisme. Ça marche si bien dans les œuvres de Racine, parce que la monarchie française était absolue. On peut commenter le terme d'absolutisme, je ne le ferai pas aujourd'hui. Alors, je devrais dire ceci à propos du déterminisme. D'abord, il n'est absolument pas exclu. Et c'est tout à fait normal que le goût exquis de Racine ait quelque chose à voir avec l'organisation de la société et avec la royauté qui était considérée comme un sommet absolu, comme une source de la légitimité des lois. Donc, on peut avoir, si vous voulez, on a intérêt à profiter des recherches déterministes lorsqu'on réfléchit à l'origine de l'œuvre, à la naissance, aux conditions dans lesquelles une œuvre a été produite. Mais cela ne nous explique absolument pas pourquoi Racine a du succès dans des sociétés entièrement différentes. Parce que je vous assure que la pièce de Racine, telle qu'elle a été un peu massacrée, comme je vous l'ai raconté, a eu beaucoup de succès ce soir-là à Chicago. On joue Racine à Chicago. Et ce n'est pas du tout une monarchie absolue. Hein. Et je vous ai encore dit, si on s'est débarrassé de l'élégance de la sourdine classique, on a quand même gardé cette perfection de la construction. Pourquoi cela a du succès dans des sociétés entièrement différentes? Pourquoi Shakespeare a un tel succès en Afrique? C'est extraordinaire. Pourquoi? Comment se fait-il que nous accueillons, et la question est celle, ici celle de l'écoute, que nous reconnaissons le propos et la qualité d'œuvres produites ailleurs et dans des conditions historiques tout à fait différentes? Et comment donc résoudre ce débat? Le déterminisme est bon pour lorsqu'on étudie la production, mais il n'est pas bon lorsqu'on étudie l'écoute. Et je dois dire ceci. On pourrait parler d'une certaine mise en valeur culturelle. Voilà quelque chose comme peut-être que les régimes politiques, les régimes économiques favorisent peut-être la découverte de certaines vérités, de certaines beautés. Mais il reste que la portée de celles-ci est plus grande que les frontières historiques du système qui a facilité leur mise en lumière. Et je vous donnerai mon dernier exemple, qui est celui de la société de cour, si bien décrite par Norbert Elias. Cette société, décrite par Norbert Elias, disons, au XXe siècle, mais au XVIIe siècle, elle a été si bien décrite par une nouvelle comme Don Carlos de Saint-Réal. Cette société a favorisé la vanité et la dissimulation. C'est normal. Dans une cour, on ne survit que par en flattant la vanité et en se dissimulant. Mais elle a favorisé également la pénétration morale, parce qu'il faut savoir lire les autres, et le refus du monde. Je vous lis. Vous allez reconnaître. Nous haïssons la vérité. On nous la cache. C'est un texte écrit pendant une période qui connaissait cette société de cours. Nous voulons être flattés. On nous flatte. Nous aimons être trompés. On nous trompe. C'est ce qui fait que chaque degré de bonne fortune qui nous élève dans le monde nous éloigne davantage de la vérité. Parce qu'on appréhende plus de blesser ceux dont l'affection est utile et l'aversion plus dangereuse. Un prince sera la fable de toute l'Europe et lui seul n'en fera rien. Je ne m'en étonne pas. Dire la vérité est utile à celui à qui on l'a dit, mais désavantageux à ceux qui la disent, par qui se font haïr. Or, ceux qui vivent avec les princes aiment mieux leurs intérêts que celui du prince qu'ils servent. Et ainsi, ils n'ont garde de lui procurer un avantage en se nuisant à eux-mêmes. Vous avez reconnu, bien entendu, les pensées de Pascal. Et il ajoute, ce malheur est sans doute plus grand et plus ordinaire dans les plus grandes fortunes, mais les moindres n'en sont pas exemptes, parce qu'il y a toujours quelque intérêt à se faire aimer des hommes. Ainsi, la vie humaine n'est qu'une illusion perpétuelle, on ne fait que s'entretromper et s'entreflatter, etc. Pascal lui-même voit qu'une vérité qui est découverte dans sa forme la plus puissante, la plus évidente, autour d'un prince à la cour s'applique à des conditions, à des fortunes moindres, comme il dit. De la même manière, dans les cultures démocratiques, pour vous donner un exemple symétrique, on saisit mieux qu'ailleurs la solitude de l'individu. Vous savez que déjà Tocqueville disait ce qui l'a étonné. Le plus en Amérique, c'est impressionnant. En Amérique, la chose la plus difficile n'est pas la lutte de l'homme contre la nature, comme on aurait pu le croire, mais c'est la lutte de l'homme contre la solitude. Et c'est une thématique fondamentale du roman américain. Et il y a peu de romanciers qui décrivent la solitude aussi bien que Faulkner. Et cependant, Faulkner est lu et il est aimé ailleurs que dans des endroits où la solitude est un grand problème. Comme vous voyez, j'essaie d'exprimer des doutes sur le déterminisme. Pour la téléologie, est-ce que l'histoire nous conduit quelque part? On n'a peut-être pas le temps d'entrer dans ces détails. Je voudrais tout simplement exprimer les doutes personnels que j'ai sur la téléologie de l'histoire, parce que, vous savez, il y a si l'histoire conduit quelque part, c'est que l'esprit humain, cet esprit humain, en devenant de plus en plus mûr, arrive à la maturité et donc à un certain type de maîtrise de soi et de bonheur. Aux États-Unis, il y a actuellement un débat parmi les il y a quelque chose comme un débat dans la biologie. Il y a quelques biologistes qui sont croyants et qui soutiennent qu'il suffit de regarder le monde vivant pour voir qu'il est conçu par une intelligence supérieure, par Dieu. Et que, donc, il y a ce qu'il appelle « intelligent design ». Comment traduire « intelligent » ?
Dessin intelligent.
Bon, voilà. Il y a un dessin. Oui, hein ? Mais « design », c'est ici un peu aussi « planification ». Oui. Disons, il y a comme une sorte de dessin intelligent, une planification intelligente. Okay. Je ne suis pas biologiste, je n'ai pas d'opinion là-dessus, mais en regardant l'histoire, si l'histoire était théologique, ça présupposait, ça se présupposerait une planification intelligente, un intelligent design. Ce que j'ai vu dans ma vie au niveau de l'histoire m'a convaincu qu'il n'y a pas de intelligent design dans l'histoire. Donc, tout ce que je vois, c'est, ça contredit absolument la moindre possibilité d'une téléologie de l'histoire indépendante du résultat de l'action humaine. Et la même chose est valable en littérature. La littérature n'a pas travaillé depuis ce début, depuis Homère et je ne sais pas quand, pour aboutir, comme nous a raconté, au surréalisme, je pense presque. Sinon, c'est pas l'Iliade est là, dépassée pour arriver à Nadia. C'était passé. Et finalement, l'irréversibilité qu'on nous raconte souvent, on nous parle souvent de l'irréversibilité de l'histoire, c'est peut-être vrai en histoire, c'est, ça, de nouveau, j'ai pas d'opinion, mais en culture, c'est absolument pas vrai, parce qu'on a tellement de les grandes renaissances ou les petites renaissances, et ce qu'on appelle en anglais revival, remise à la mode, petites ou grandes, sont tellement fréquentes qu'il est impossible de parler d'une irréversibilité totale. Et ici, je devrais dire que la notion de moderne, disons un abus qu'on a pu faire de cette notion, au fond, précieuse, hein, vite qu'elle est, elle est quand même précieuse, elle nous aide à voir certaines différences. L'abus de cette notion nous a fait croire souvent que ces choses sont irréversibles, des choses sont irréversibles dans l'art alors qu'elles ne le sont pas. Donc, pour conclure sur l'histoire, je fais de nouveau appel à Ranke en disant que l'histoire de la littérature est le résultat des intentions des auteurs et des œuvres qu'ils produisent pour les réaliser. Ok, alors, il nous reste quelques minutes, 7 minutes. Je sollicite des questions, poser des questions pour me faire croire que je n'ai pas parlé par erreur en roumain. Sinon, trop de respect, quand même. Bon. Sinon, oui. Oui, voilà. J'ai dit que l'histoire est le résultat des intentions, résulte des intentions des auteurs et des œuvres qu'ils produisent pour les réaliser. Et je veux dire, elle résulte de cela, non pas nécessairement en tant qu'un résultat convergent, mais résulte de convergence et de divergence. Et là, oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, je vais poser moi-même une question et dire, donnez-nous un exemple. Et l'exemple est cette histoire du roman que j'ai essayé de formuler comme l'histoire d'un long conflit, un long conflit qui produit cette histoire. Et c'est un conflit entre les auteurs qui essaient de idéaliser l'être humain et de produire des romans, des œuvres qui ont des héros que nous nous sentons obligés d'admirer, bien que nous sachions qu'il n'y a aucune réalité possible chez ces héros-là, d'une part, et d'autre part, ceux qui, au contraire, essaient de caricaturer l'être humain et de le montrer tel qu'il est, ou encore pire que ce qu'il est. Donc, il y a d'ailleurs une sorte de débat qui, dès le début du roman, entre l'idéalisme et l'anti-idéalisme dans le roman. On appelait parfois l'anti-idéalisme, on l'appelait réalisme, mais le réalisme, proprement dit, n'est que un épisode très 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 important et très beau d'ailleurs au XIXe siècle dans cette lutte séculaire, vous voyez. Et c'est seulement lorsque nous comprenons à quel point ces œuvres qui exagèrent et qui déforment la réalité sont précieuses pour nous que nous pouvons saisir la dynamique interne de l'histoire du roman. Est-ce que ces œuvres qui ne sont pas réalistes ne parlent pas de nous? Si elles parlent de nous. Si elle parle de nous, mais elle ne parle pas de nous par l'intermédiaire de personnages qui nous ressemblent. vous donner ce type d'exemple, vous connaissez Blade Runner? Est-ce que quelqu'un ici a vu Blade Runner? Oui, bon. Vous connaissez Star Wars? Oui. J'aurais dû dire prérequis pour un examen d'admission dans ce cours, un test pour voir si les gens ont vu Star Wars, Blade Runner, Le Seigneur des Anneaux, c'est bon, de bons films. Dans Star Wars, le personnage de Luke, par exemple, nous ne ressemblons pas à Luke, ou de la princesse Leia avec ses... Nous, il n'y a rien. Je ne connais personne qui ressemble à la princesse Léa ou qui ressemble à Luke. Ce sont des personnages fortement idéalisés, fortement idéalisés. Mais ils idéalisent des traits ou des vertus ou des vices que nous avons tous. Donc ils vont directement, disons, au lieu d'imiter des gens et d'analyser dans une personnalité le jeu interne des vertus, des vices, des bonnes intentions et des mauvais penchants, ces œuvres-là procèdent de manière abstraite. Ils prennent une vertu, mais tout le monde reconnaît la générosité, tout le monde reconnaît la lâcheté, tout le monde reconnaît le courage, et ils créent des personnages qui ne sont que des exemples, des matérialisations de ces... Donc, ce que je veux dire, c'est que l'histoire du roman était en grande partie, mais pas seulement, en partie structurée par ce débat. Faut-il que les personnages soient comme nous, c'est-à-dire des mélanges de bien et de mal, ou faut-il séparer cela, bien idéaliser, pour que les gens puissent s'identifier avec les personnages qu'on appelait positifs, les bons personnages, et détester les méchants. Voilà un exemple où les auteurs savaient exactement ce qu'ils faisaient. C'était pas des écrivains. C'était des écrivains qui savaient ce qu'ils voulaient faire et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Bon. Oui. Et oui, vous avez raison, mon écoute est le résultat d'une étude. Mais en même temps, j'avoue que mon... vous pouvez même en passer d'autres. Oui, assis, le problème. Vous permettez que je me mette debout comme on le fait aux États-Unis. Mon écoute a aussi nourri l'étude. Parce que lorsque on lit une interprétation imaginaire et improbable d'une œuvre, on fait quand même référence à ce que nous avons écouté nous-mêmes d'abord ou en même temps. Vous voyez ce que... Donc, je pense qu'il est possible d'écouter en étudiant moins. Je crois que l'écoute est nourrie par l'étude. C'est une habitude, c'est une vertu, une bonne habitude est nourrie par l'étude. Mais en même temps, je pense qu'il est impossible d'étudier sans écouter. Il est impossible. Ok. Oui, oui. Okay. Très très bien. Mais vous voyez, je ne suis absolument pas contre l'idée de Bakhtin que le roman est un genre de la plasticité. Mais plutôt, je suis opposé à l'idée à pousser cela à la limite et dire le roman est la plasticité infinie ou la plasticité absolue. Non. Le roman ne peut pas faire certaines choses. Il y a des choses que le roman, je ne sais pas s'il ne peut pas le faire, mais il ne l'a jamais faites. Et si on regarde, il y a une grande plasticité, mais elle est quand même structurée. J'ai donné tout à l'heure un exemple de d'un conflit séculaire qui organise un petit peu l'histoire du roman. Il y en a d'autres, vous voyez. Donc, ce n'est pas absolument indéfini. C'est ce que je voulais dire. Oui. Oui. Bon, je vais traduire, oui. Il y a une auditrice qui pose une question en roumain. Oui. Oui. Oh non, non, non. Ah non, non, on peut pas.
L'œuvre, l'écoute, l'étude de l'œuvre elle-même. Et puis je pensais, quelle est votre attitude envers l'éternité?
Une attitude de. Je dirais, une attitude de respect tellement profond et tellement humble que je n'ose plus les toucher. disons pour parler sérieusement quand même, disons chacun d'entre nous est le fruit d'expériences vécues. Vous êtes beaucoup plus jeune, vous n'avez pas vécu comme moi des périodes où les théories abandonnaient complètement l'écoute de l'œuvre. Il y a même eu une période, et même maintenant aux États-Unis, j'ai des collègues qui parlent de théorie en soi, sans complément. Une théorie doit être une théorie de quelque chose. Okay? La théorie du vers, par exemple, c'est extrêmement important. On ne peut pas comprendre la prosodie française si on ne comprend pas un petit peu la théorie du vers. Okay? Ou alors la théorie des tropes. On a besoin de la théorie des tropes. Moi, je crois aussi que la théorie de l'action peut nous aider à comprendre certaines choses dans l'organisation des intrigues. Mais je me méfie dans des domaines précis de ceux qui insistent trop sur la théorie, comme je me méfierais de quelqu'un qui me dirait tu veux sortir te promener avec ton fils, mais est-ce que tu as lu toute la théorie pédagogique, toutes les théories pédagogiques? Est-ce que tu as lu? Oui, j'ai dit non, en fait, je n'ai lu que les promenades. Le promeneur solitaire de Rousseau, mais moi je veux me promener avec quelqu'un. C'est tout ce que je pourrais répondre. On n'a pas besoin de toutes ces théories. Il suffit d'avoir quelque chose comme une sorte de tact personnel, savoir ne pas insulter les gens avec lesquels on se promène. Il y a un domaine qui est autre et qui échappe à la véritable théorie. Bon, il est 12h49. Donc, je vous remercie. Et la semaine prochaine, merci beaucoup. Merci. Donc, la semaine prochaine, nous parlerons des caprices des dieux. Caprices des dieux, remarques sur l'épopée et la tragédie. Donc, si vous croyez être tout à fait indépendant des dieux, vous verrez que c'est pas complètement. Merci, Jacques.